Nous restons ici à Kinshasa pour entrer dans cette deuxième phase de la conférence de presse, à savoir les questions et réponses. Je commence par une dame au fond là-bas, donnez le micro.
Merci, c'est Sylvie Fortuné Mboula pour le camp d'Antenna. J'adresse ma question au colonel Félix Prosper ou à la dame aussi du bureau conjoint de la Chambre des droits de l'homme. En fait, il y a un mouvement d'insécurité qui sévit à Kinshasa, la capitale, en particulier les attaques contre les institutions catholiques. Le dimanche dernier, une paroisse a été attaquée à Limété, Saint-Dominique. Et ce matin, nous apprenons que c'est à Kingaboa, Saint-Kizito. J'ai vu les images avant de venir ici. À ces jours, la MONUSCO, le bureau conjoint, ont-elles identifié les auteurs de ces actes de barbarie? Et qu'est-ce que la MONUSCO prévoit de faire? Parce qu'il faut dire que les fidèles catholiques se sentent de plus en plus en insécurité dans la capitale. Merci et dans l'ensemble du pays. Merci.
Oui, merci. Peut-être que ma collègue Barbara complétera après sur ce chapitre. Oui, madame, vous avez parfaitement raison de soulever cette question qui est assez préoccupante et que nous condamnons d'ailleurs avec la dernière énergie. Parce que depuis un certain temps, nous avons observé ces attaques récurrentes dans les différentes provinces du pays, mais aussi ici à Kinshasa, comme vous l'avez indiqué tantôt, contre certaines églises qui sont d'abord des lieux de culte, des symboles, et je dirais même que ce type d'attaque est inacceptable, inconcevable, et doit être combattu afin qu'on y mette un terme de manière définitive. Qu'est-ce que la MONUSCO fait pour protéger ces lieux de culte? Je pense qu'il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Cette responsabilité incombe aux forces de défense et de sécurité congolaises en premier lieu, et deuxièmement, la MONUSCO est là en effet pour apporter tout son soutien aux efforts qui seront déployés par les forces de défense et de sécurité congolaises pour sécuriser ces lieux de culte. Mais en interne, au niveau de la MONUSCO, des mesures ou des plans de contingence ont déjà été pris et mis en œuvre, et des patrouilles ont été déployées sur le terrain afin de pouvoir faire un suivi de cette affaire, mais aussi pouvoir intervenir en cas de besoin. Il est évident que rien qu'à Kinshasa, nous avons plus de 150 églises. Il est évident qu'il est tout à fait difficile pour la MONUSCO seule de pouvoir mener cette mission de sécurisation, mais nous sommes là pour appuyer aussi les autorités congolaises dans ces efforts de sécurisation. Vous avez raison, on doit arrêter cet état de fait qui est inacceptable, parce que je pense tout simplement que les lieux de culte doivent être respectés, préservés, et je pense aussi que les autorités congolaises avec qui nous sommes en contact sont en train de prendre des mesures énergiques pour y mettre un terme. Barbara, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce plan-là concernant les droits de l'homme.
Peut-être juste que cette question qui est devenue de plus en plus sérieuse et visible l'a été plutôt au début du mois de février, donc ça n'a pas été pris en compte dans notre note pour le mois de janvier. C'est pas seulement à Kinshasa, nos équipes suivent des attaques au lieu de culte aussi en Mbujimayi, Lubumbashi, au Kasai Central. En plus de ce que Félix vient de dire, je pense que la responsabilité mandatée du bureau conjoint est aussi d'essayer, ensemble avec les autorités nationales, d'établir la responsabilité de ces faits. Donc on est en train de mener des enquêtes pour voir qui est derrière ces attaques. Pour la plupart des lieux où nous sommes présents, pour l'instant, c'est encore des individus inconnus. Pour les Kasaï, certains actes ont été attribués aux combattants, aux milices des Kamina Nsapu, mais on est en train de mener des enquêtes pour établir les responsabilités, s'assurer que les gens responsables sont portés devant la justice.
Merci. Une deuxième question ici à Kinshasa. Une deuxième question à Kinshasa. Oui, passez-lui le micro, s'il vous plaît.
Merci bien, Félix. Théodore Gandou pour les comptes de Télé7. Vous avez suivi, depuis la signature de l'accord, le 31 décembre 2016. Aujourd'hui, jour pour jour, nous tendons vers 2 mois, mais rien n'est signalé sur le terrain dans l'application de cet accord. Le président de la République qui a échangé récemment avec les évêques s'en tient à la présentation d'une liste des 3 noms, mais au rassemblement, on n'entend pas cela de cette oreille. Qu'est-ce que la communauté internationale, en général, et en particulier la MONUSCO, entend mettre en œuvre pour faire en sorte que cet accord soit définitivement appliqué?
Oui, merci pour votre question. Effectivement, il faudra d'abord revenir, remettre les choses dans leur contexte, parce que vous savez aussi bien que moi que suite au décès de l'illustre Étienne Tshisekedi à Bruxelles, les parties prenantes avaient d'un commun accord décidé de suspendre les négociations, et mais des contacts bilatéraux se poursuivaient. Et vous savez aussi que depuis quelques jours, les évêques aussi étaient en conclave pour justement revisiter cette feuille de route qui avait été signée le 31 décembre à la SEMCO. Et aujourd'hui, la MONUSCO, dans le cadre de ses bons offices tels que stipulés par la résolution 2277, menée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, nous sommes en train de poursuivre nos activités de bons offices dans le cadre justement de cet accord du 31 décembre, qui est quand même, il faut le reconnaître, un pas significatif, qui a permis quand même à tous les acteurs politiques au moins de s'entendre sur une feuille de route qui a été paraphée par les différents acteurs. Maintenant, nous étions dans cette phase des arrangements spécifiques ou arrangements particuliers et qui avaient été suspendus temporairement. Mais nous poursuivons nos bons offices par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui est en train de rencontrer tous les acteurs, que ce soit de la CENCO, que ce soit les acteurs politiques du Rassemblement ou de la majorité présidentielle, pour que très rapidement les décisions qui sont consignées dans cet accord-là, mais aussi les arrangements particuliers qui seront retenus à l'issue des discussions qui vont reprendre très certainement bientôt, pour que cette feuille de route puisse avancer et qu'on aille vers ce qui est essentiel, ça veut dire entrer dans la période de transition par la nomination du gouvernement, mais aussi aller plus tard dans des élections paisibles, transparentes et crédibles. Donc je me rends à Goma pour prendre deux questions. Retrouvons nos amis à Goma. Oui, j'ai l'impression que nous avons des problèmes techniques avec Goma. Goma, si vous ne nous entendez pas, donc nous retournons le micro ici à Kinshasa jusqu'à ce que ce problème technique puisse être résolu. Donc oui, deux autres questions ici à Kinshasa dans ce cas. Oui, passez le micro.
RTNC2 Développement, Laetitia Massiela. Ma question, c'est de savoir, la semaine passée, le représentant du secrétaire général, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Sidiku, a rencontré le secrétaire général adjoint de l'IDPS en charge de questions politiques et diplomatiques, Félix Tshisekedi. J'aimerais savoir exactement leur échange en tournée sur quoi. Merci.
Oui, madame, sans être dans le secret des dieux, je peux vous dire de manière très globale que cette rencontre est normale et s'inscrit dans le cadre des activités du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, mais il est évident que la situation politique a été bien entendu discutée, mais surtout et aussi toutes les mesures qui doivent être prises dans la préparation des obsèques de monsieur Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles. Donc c'est dans ce cadre-là que M. Mamadou Sambo Sidiku poursuit ses consultations, poursuit ses contacts pour voir en quoi est-ce que la MONUSCO pourrait apporter son soutien dans l'organisation future de ses funérailles, mais aussi pour maintenir le contact avec tous ses acteurs politiques, parce que comme vous l'avez dit vous-même, vous savez que la situation est un peu de manière très générale assez tendue, et donc dans le cadre de ses bons offices, M. Mamadou Sidiku engage tous les acteurs politiques, pas seulement M. Tshisekedi, évidemment, c'est une figure de proue au sein du Rassemblement, mais aussi avec tous les autres acteurs pour discuter des modalités, aplanir les divergences, et essayer d'accompagner le processus pour qu'on aille très rapidement dans ce que tout le monde attend, ça veut dire le processus, la mise en œuvre réelle du processus et de l'accord qui a été signé. Donc, je prends une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, passez le micro.
Albert Omban, America TV. Monsieur Bass, nous avons constaté la recrudescence de la violence au à RDC. Nous commençons par l'Est, où la localité de Nyirangongo, les localités de Djomba sont à proie avec les M23, les communautés du Kassai avec les Mwanansapu et au Bas-Congo avec Mwanansemi. Cette recrudescence de la violence, et quelle est la position de la MONUSCO pour faire face à cette flambée de violence?
Oui, merci pour cette question. Avant de la référer au général Cummins qui est à Goma, je peux vous dire que effectivement cette situation est très préoccupante avec l'éruption de tous ces foyers de tension que nous observons aussi bien à l'ouest, à l'est, ici dans la ville province de Kinshasa. Évidemment, des mesures sont prises au niveau de la force pour, en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises, notamment les FRDC, pour mettre en place des mécanismes qui permettent de contrer cette menace ou en tout cas d'agir sur ces foyers de tension afin que les populations civiles qui sont concernées en premier lieu, parce que vous savez qu'il y a des déplacements massifs de population, Florence Marchal en a touché un mot tantôt, et donc évidemment pour mettre en œuvre ces mécanismes-là qui nous permettent de juguler cette crise que vous avez tantôt mentionnée et d'arriver à bout de ces groupes armés. Mon général, je me rends tout de suite à Goma pour prendre le général Bernard Cummins. Mon général, si vous avez un commentaire, je ne sais pas si Goma est en ligne.
Je pense que Goma est en ligne.
Magnifique.
Je vais simplement dire tout d'abord bonjour à tous les journalistes qui sont autour de nous et également à tous nos auditeurs de Radio Okapi qui nous écoutent. Nous suivons effectivement avec une attention extrême, comme nous l'avons fait d'ailleurs depuis le premier jour de notre mandat ici, la situation dans ce pays. Les trois points que vous avez évoqués, les trois zones de crise que vous avez évoquées sont très certainement celles sur lesquelles aujourd'hui nous concentrons toute notre attention. La MONUSCO n'est pas seule dans cette affaire. La MONUSCO est à côté avec ses partenaires congolais. Je suis au quotidien en liaison avec des officiers généraux congolais. Je peux vous assurer que nous avons des relations extrêmement étroites, régulières, de manière à échanger les informations que nous avons, que nous recueillons de notre côté par nos différents capteurs, essentiellement les militaires de la MONUSCO, mais également les échanges que nous avons parce que nos camarades militaires congolais ont également des informations qui leur parviennent. Et c'est exactement en travaillant ainsi que nous arrivons d'abord à avoir une idée plus précise de la situation à laquelle nous sommes confrontés, car en toute chose, il s'agit de bien savoir ce que nous avons en face de nous. Il est hors de question d'agir avec imprudence ou de manière inconsidérée. Et lorsque nous avons bien déterminé quel est l'adversaire que nous avons en face de nous, eh bien, nous apportons à nos camarades militaires congolais tout l'appui nécessaire que la force est en mesure de donner. Je vous citerai simplement un exemple, puisque vous avez fait référence au M23, dont nous avons de multiples indices qui indiquent qu'effectivement, ce mouvement est actuellement certainement présent dans cette zone des volcans. Nous avons eu des informations qui ont commencé à nous parvenir, je dirais, depuis 48 heures maintenant, de manière un petit peu plus soutenue. Et sans attendre, les informations ont circulé pendant toute une nuit, je dirais, et sans attendre, nous avons pris toutes les dispositions utiles pour être en mesure de lancer déjà une première reconnaissance aérienne armée dès le petit matin, c'était avant-hier matin. Cette reconnaissance nous a permis de confirmer un certain nombre de choses, et nous avons hier une réunion de travail extrêmement fructueuse, avec les officiers généraux qui sont en charge de cette situation, et nous avons encore hier, je dirais de manière extrêmement réactive, lancé une deuxième reconnaissance offensive aérienne, de manière à préciser un certain nombre de choses. Je pense que cela aura aidé notre partenaire à se faire une idée lui aussi plus précise de la situation, et nous travaillons, et je n'irai pas dans le détail, vous vous en doutez bien, nous travaillons avec nos amis pour pouvoir voir dans quelle mesure, à quel endroit, à quel moment, nous allons pouvoir déployer tout notre appui. Nous y travaillons.
Oui, merci mon général pour toutes ces informations. Peut-être que la deuxième partie de la question de mon collègue ici à Kinshasa concernant l'Ouest, en d'autres termes, si vous voulez réellement savoir ce que nous faisons à l'Ouest pour juguler cette crise, effectivement, vous savez très bien que nous avons déployé non seulement des troupes additionnelles de notre bataillon de déploiement rapide, actuellement qui sont là-bas, en plus d'avoir renforcé la présence de notre staff national en vue d'apporter les réponses appropriées à ce qui se vit actuellement dans les Kasaï de manière très générale et sans oublier non plus cette équipe mobile d'évaluation qui a été déployée sur le terrain et qui est en train de travailler pour mener des investigations, mieux comprendre la crise, prendre contact avec les autorités provinciales et territoriales mais aussi avec les populations civiles pour que l'on puisse enfin avec le concours avec les FRDC et les autorités congolaises apporter des réponses appropriées à cette crise. Donc Goma, heureux que vous soyez de retour parmi nous, puisque vous aviez le micro, je vous demande de le garder pour prendre une autre question.
Oui, c'est Olivier Baraka de Mishapi Voice TV. Je m'adresse au commandant adjoint de la force. Il a essayé de survoler la situation sécuritaire avec le M23. Mais j'aimerais qu'ils nous disent cette reconnaissance qui a été faite, a été réalisée dans quelle zone, parce que de plus en plus on parle de la présence du M23 dans une grande partie en territoire de Rutshuru, et quelles étaient les vraies dispositions que prendrait la MONUSCO au cas où le M23 progressait.
La localisation précise de la zone, je ne la donnerai pas, puisque ce serait peut-être donner aussi des informations à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être malveillants. Ce que je dois dire, c'est que nous travaillons de manière extrêmement précise avec nos camarades congolais pour identifier les zones qu'ils considèrent comme étant sensibles, à risque. Et bien évidemment, quand un hélicoptère effectue une mission, celle-ci survole plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc je ne pourrai pas, et je n'irai jamais dans le détail, des endroits que nous survolons, ce n'est pas l'objet de ce genre